France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliatovine.
Une grande question qui marque l'actualité, un voyage dans le temps pour comprendre comment l'économie s'est déjà penchée sur des sujets qui nous préoccupent pourtant toujours à l'heure actuelle, soit aujourd'hui un point nécessaire sur le rôle de la Federal Reserve américaine, puis la poursuite de notre récit consacré aux économistes face à la guerre, et enfin la chronique d'Arnaud Aurin à retrouver à 14h55. C'est le programme de cette émission préparée par Tina Young, réalisée par Camille Mathy et mise en onde aujourd'hui par Jean-Guilain Meige. Et avant tout cela, une petite parenthèse, cela ne vous aura pas échappé, la rentrée politique a été aussi, voire surtout, très économique. Et c'est peu dire que les débats autour de la juste contribution des plus riches à la quête d'un avenir budgétairement et socialement acceptable ont suscité tout un lot de prises de position, de tribunes, d'articles plus ou moins énervés, au point d'être souvent qualifiés d'hystériques. Alors l'objet du débat en soi n'est pas nouveau, les termes dans lesquels l'économiste Gabriel Zucman les pose le sont davantage, et cela n'a pas manqué de tendre les choses parfois à l'extrême. Extrême, c'est un mot qu'a employé Bernard Arnault dans un entretien publié ce samedi dans le journal britannique Sunday Times. On ne comprend pas les positions de M. Zucman si l'on oublie qu'il est d'abord un militant d'extrême gauche. À ce titre, il met au service de son idéologie qui vise la destruction de l'économie libérale, la seule qui fonctionne pour le bien de tous, une pseudo-compétence universitaire qui elle-même fait largement débat. Voilà pour rapporter ses propos qui reflètent eux-mêmes une certaine vision très politique, pas besoin de le préciser, de ce qu'est ou devrait être l'économie. Que des individus directement concernés par le débat, que ce soit pour des raisons politiques ou parce qu'ils y ont un intérêt propre, notamment de nature financière, se positionnent publiquement, ce n'est ni nouveau ni franchement original. Que l'économie soit accusée d'être non pas une science, mais finalement une compilation d'opinions, ce n'est pas très nouveau non plus. La sortie par le haut à de telles attaques n'est pas franchement inédite non plus. Loin d'être uniquement politique, le débat est effectivement en réalité aussi très technique. Discussion autour des données utilisées, des comparaisons établies entre patrimoine et PIB, des effets à attendre d'une telle mesure, de la notion même de dégressivité du système fiscal français. Bref, on pourrait se dire qu'on est reparti pour un tour. L'économie, une fois de plus, fait figure de discipline soit trop peu scientifique, soit trop complexe pour en faire un outil accessible à toutes et tous. Et je dois l'avouer, ce n'est pas une perspective très réjouissante pour quand on passe son temps à parler d'économie dans le but de prouver qu'il s'agit là d'une nécessité démocratique, ce qui est bien évidemment mon cas et le cas de cette émission. Mais ce qui est relativement nouveau avec cet épisode, c'est qu'on peut choisir de s'en réjouir, et c'est précisément ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de le faire car ce moment est aussi celui où l'on voit des économistes accepter de discuter, d'échanger, d'adopter des postures scientifiques qui ne sont justement pas dogmatiques, de tirer des conclusions que l'on n'aurait pas forcément attendues d'eux. Ce moment est aussi celui où on se rend compte que les économistes sont capables et même particulièrement aptes à incarner la nuance dans le débat, notion qui manque cruellement à d'autres endroits. L'économie, précisément parce qu'elle est un mélange de techniques et de choix politiques, est une discipline essentielle. Alors de là à dire que l'hystérie a du bon, c'est peut-être beaucoup dire, mais la vitalité des débats tels qu'ils se construisent entre économistes est-elle assurément bénéfique? C'est l'économiste François Girolf qui rappelait ce week-end ces mots de Joanne Robinson. Le but d'étudier l'économie n'est pas d'acquérir un lot de réponses toutes faites aux questions d'ordre économique, mais d'apprendre à éviter d'être déçu par les économistes. Des mots que je voulais donc partager ici pour remettre au centre du jeu ce dont il s'agit vraiment, et peut-être aussi dispenser un message d'espoir, accrochez-vous, l'économie est essentielle et on va parvenir à la comprendre toutes et tous ensemble. Et par ailleurs, ça tombe bien, c'est au plus célèbre des compagnons d'armes, et c'est le cas de le dire, de Joanne Robinson, que nous allons nous intéresser aujourd'hui. C'est John Maynard Keynes, bien sûr, qui ne fut pas le dernier d'ailleurs à devoir affronter débats et colères en raison de ses recettes souvent contestées, y compris face à la guerre. C'est ce que nous allons voir en seconde partie d'émission. Et puis aux États-Unis aussi, la rencontre entre technicité, expertise et politique fait débat sur un tout autre plan, là où ce sont les politiques budgétaire qui alimente les discussions chez nous, c'est la politique monétaire américaine qui est au centre des tensions.
The job is too late, always too late, a little slow. And I'm not happy with them.
Cette année, l'économie a été confrontée à de nouveaux défis. Les droits de douane, nettement plus élevés pour nos partenaires commerciaux, sont en train de remodeler le système d'échange mondiaux. Le durcissement de la politique migratoire a entraîné un ralentissement brutal de la croissance de la population active. Il existe une grande incertitude quant à l'issue finale de toutes ces politiques et à leurs effets durables sur l'économie.
Jérôme Poel, avril 2025.
We have a Federal Reserve Chairman that is playing politics. Somebody that I've never been very fond of, actually. But he's playing politics. Interest rates should be down now. They should be coming down. Our guy wants to play cute, because they're not very smart people.
Donald Trump, avril 2025.
Le président américain Trump intensifie son conflit avec la réserve fédérale.
Il a déclaré qu'il limogeait la gouverneure Lisa Cook pour des problèmes qui seraient liés à ses prêts hypothécaires.
Nous avons des nouvelles de dernière minute. Il y a un instant, la Cour fédérale n'a pas autorisé Donald Trump à démettre Lisa Cook de ses fonctions.
Antoine de Cabanne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant en sciences politiques et économie politique à l'Université catholique de Louvain et vous êtes avec nous depuis le studio d'ici à Lille. Et je remercie très chaleureusement Samuel Delannoy qui assure le duplex aujourd'hui. Alors on l'a appris mercredi dernier, la réserve fédérale américaine a annoncé baisser ses taux d'intérêt. Alors on pourrait se dire quel est l'intérêt justement de cette annonce qui n'est pas si exceptionnelle que cela. Il faut réfléchir derrière à tout le contexte qui a présidé à cette décision. On peut supposer qu'il y avait une table lors de cette réunion autour de laquelle se trouvait quand même un certain nombre de personnages qui ont fait l'actualité récemment. On trouvait notamment Stéphane Miran, conseiller économique de Donald Trump et dont le Sénat avait approuvé la nomination au poste de gouverneur quelques heures avant la tenue de la réunion. Autour de la table également Lisa Cook, gouverneure accusée par Donald Trump, on l'entendait, d'avoir menti sur des dossiers d'hypothèques immobilières et démise à ce titre de ses fonctions par le président des États-Unis avant qu'une juge fédérale annule la décision. Ça, c'était mardi 9 septembre. Et puis enfin, évidemment, autour de la table, il y avait le président de la Fed, Jérôme Powell, qui, on l'entendait, a fait l'objet d'attaques répétées de la part de Donald Trump depuis plusieurs mois. Si je veux qu'il parte, il partira très vite. C'est ce que déclarait Trump il y a 5 mois. Donc c'est peu dire que l'ambiance devait être tendue. Cette ambiance-là, Antoine de Cabanne, est-ce qu'on peut dire que cette tension, ces attaques répétées vis-à-vis d'individus, mais aussi de l'institution qu'est la Fed, est-ce qu'on peut dire que ça a payé d'une certaine manière, on va dire pour Donald Trump? Est-ce que la décision d'abaisser les taux directeurs sont une façon pour la Fed d'accéder aux demandes de Trump?
Alors, à mon sens, ce n'est pas le cas quand on regarde le relevé de décision de la réserve fédérale dans lequel ils expliquent les décisions qu'ils ont prises dans leur dernière réunion. On voit que la décision de baisser les taux d'un quart de point, donc 0,25 point de pourcentage, a été validée par 11 des 12 membres du comité qui prend les décisions en matière de politique monétaire au sein de la Fed, le Federal Open Market Committee, ou FOMC. Le seul membre du FOMC qui s'est opposé à cette décision, c'est Stephen Miran, dont vous venez de parler, qui a été effectivement intronisé comme gouverneur de la Fed quelques heures avant le début de cette réunion.
Et il s'est opposé à cette décision parce qu'il voulait que la baisse soit beaucoup plus importante que celle qui a été finalement admise et votée.
Effectivement, Miran demandait qu'il y ait une baisse de taux de 0,5 point de pourcentage, mais ce qui par ailleurs donc le met en marge du reste du Conseil des gouverneurs, enfin du reste du FOMC, mais qui est très loin d'atteindre les objectifs que Trump revendique, c'est-à-dire que Trump voudrait que les taux directeurs qui se situent aujourd'hui dans la fourchette entre 4% et 4,25%, Trump voudrait que ces taux descendent à un niveau de 1%, c'est-à-dire quelque chose qui est une baisse de 300 points de base, ce qui serait assez énorme. La Miron a voté contre en demandant une baisse de 0,5 contre 0,25. Donc on voit qu'on n'est pas encore sur un déplacement majeur des bornes du débat au sein de la Fed et que par ailleurs, Miron a voté tout seul contre une décision que l'ensemble des autres membres ont pris et ont avalisé.
Antoine de Cabanne, il faut faire là un petit rappel ou en tout cas un point aussi plus technique. On pourrait se demander pourquoi un président des États-Unis multiplie, on va dire, les adresses vis-à-vis de la Fed, pourquoi il y a un lien si fort aussi entre le gouvernement et puis ce gouvernement dit d'experts, et on va revenir sur cette notion-là de la Fed. Pourquoi c'est important pour Donald Trump de s'assurer que la Fed suit bien ses recommandations? C'est en fait toute la question de ce que peut faire une politique monétaire très concrètement. Qu'est-ce qui fait toute la force finalement de cette relation-là?
Alors, ce qui est au cœur de cette relation, c'est la manière dont la politique monétaire affecte l'ensemble de l'économie. Les banques centrales mettent en œuvre la politique monétaire et pour ce faire, leur principal instrument, c'est ce qu'on appelle les taux directeurs. Donc, c'est-à-dire le taux auquel la banque centrale prête aux banques privées et c'est ensuite à partir de ce taux-là que les banques privées prêtent aux ménages ou aux entreprises. Donc en fonction du niveau où est fixé le taux directeur de la Fed, ça affecte le coût du crédit dans l'ensemble de l'économie. Et Donald Trump, depuis son entrée en politique en 2016, n'a de cesse de plaider pour des taux directeurs qui soient bas, pour que le crédit soit peu cher dans l'ensemble de l'économie, afin de stimuler l'activité économique. C'était déjà le cas pendant son premier mandat. Donald Trump demandait déjà à la Fed de baisser ses taux. Il a repris ce plaidoyer vigoureux à coup de post sur son réseau social Truth Social depuis janvier dernier. Et Trump met en avant la nécessité de baisser les taux pour stimuler l'activité économique, augmenter la croissance. Il y a une deuxième dimension que Trump met en avant, qui est le fait que le niveau des taux directeurs, il détermine aussi le niveau des taux auxquels s'endette l'État américain. Et comme on le sait, la dette publique états-unienne est de taille assez conséquente, à peu près 120% du PIB, et les taux actuels de la Fed sont historiquement à un niveau relativement élevé, c'est-à-dire à 4%, ce qui fait que le refinancement de la dette publique aux États-Unis a un coût qui est relativement élevé. Et Trump voudrait voir les taux directeurs baisser, donc d'une part pour soutenir l'activité économique, mais également pour ne pas avoir à payer énormément d'argent en intérêt, et ce dans un contexte où il vient de faire passer une loi l'été dernier de baisse des impôts qui va massivement accroître le déficit. Par ailleurs, sur la première raison, ce qu'on pourrait rajouter, c'est qu'une des motivations pour Trump de vouloir baisser le niveau, de vouloir contraindre la Fed à baisser le niveau des taux directeurs, c'est de stimuler l'activité économique et, par extension, d'endiguer les éventuels effets récessifs que pourrait avoir l'augmentation massive des droits de douane.
Mais si on vous comprend bien, Antoine de Cabanne, et puis c'est aussi quelque chose qui est apparu lorsque Lisa Cook avait été largement menacée, hein, notamment par Donald Trump, cette tentative de renvoi avait donné lieu à une lettre ouverte signée par 600 économistes à travers le monde, lettre dans laquelle on pouvait lire « Une bonne politique monétaire exige des institutions monétaires crédibles. Des institutions monétaires crédibles exigent, quant à elles, de l'indépendance de la part de la Réserve fédérale ». Finalement, si on recoupe tous ces éléments-là, plus tout ce que vous venez de nous expliquer, on peut se dire que d'un point de vue très technique, d'un point de vue purement économique et théorique, la Fed est bel et bien un contre-pouvoir à partir du moment où il s'agit de compenser des politiques budgétaires, des politiques économiques menées par le pouvoir en place. C'est littéralement son rôle que d'être un contre-pouvoir économique.
Un contre-pouvoir économique, c'est une des parties du rôle de la Fed, mais le rôle de la Fed, je pense qu'il faut en revenir au rôle que lui donne la loi américaine. Il y a une loi, le Federal Reserve Act, qui crée la réserve fédérale. C'est une loi qui est votée en 1913. Et au fur et à mesure des différentes lois qui sont passées par le Congrès, des modifications de ce Federal Reserve Act, on arrive à la réserve fédérale telle qu'elle est aujourd'hui, et c'est une institution qui est dotée d'un double mandat par la loi votée par le Congrès. Ce mandat, c'est d'une part le maintien de la stabilité des prix, donc la lutte contre l'inflation, et d'autre part la maximisation de l'emploi, et donc la lutte contre le chômage. Et ce que disent les banquiers centraux américains, c'est que ils exercent ce mandat, c'est-à-dire qu'ils essayent d'atteindre ces deux objectifs en même temps. Et c'est vrai qu'à cet égard, aux États-Unis, on a une politique monétaire qui est confiée à une institution indépendante, la Réserve fédérale, et qui essaye de atteindre ces deux objectifs, quelles que soient les politiques qui sont mises en œuvre par ailleurs par l'exécutif ou par le Congrès. Et c'est en ça que l'indépendance de la Banque centrale l'amène aujourd'hui à être dans la ligne de mire de Donald Trump, c'est que la Réserve fédérale argue que sa politique monétaire, elle est déterminée non pas par son adéquation avec les mesures que promeut Donald Trump, mais qu'elle est dictée par cet objectif de maintien de la stabilité des prix et cet objectif de maximisation de l'emploi. Et c'est intéressant, quand on regarde les discours de Jérôme Powell, notamment son discours au symposium de Jackson Hole à la fin août dernier, ou le communiqué dont je vous parlais précédemment après la réunion de la Fed de cette semaine, les seuls phénomènes qui sont évoqués, c'est ceux qui affectent le niveau de l'emploi, le niveau de l'inflation. Donc, c'est intéressant de voir que la Fed joue effectivement un rôle de contre-pouvoir, mais que c'est pas un rôle qui est assumé politiquement. C'est-à-dire que la Fed, dans son discours, ne va jamais se présenter comme étant un contre-pouvoir. Elle va se présenter comme étant une agence d'experts, de technocrates, à qui le Congrès a donné un mandat et qui vont essayer de l'atteindre en calibrant leurs instruments de politique monétaire et notamment le niveau des taux directeurs.
Antoine de Cabanne, on pourrait se dire que dès le départ, il y a une forme d'absurdité. L'économie ne fonctionne pas en vase clos. Est-ce que c'était pas un peu étrange que de vouloir séparer, on va dire en termes de moins de modalités de fonctionnement, la politique monétaire de la politique budgétaire. On pouvait se douter qu'un président nouvellement élu allait vouloir faire en sorte que ses promesses électorales aboutissent sur, on va dire, une situation économiquement améliorée. Et donc, forcément, cela passe par la politique monétaire. Est-ce que dès le départ, on ne s'est pas un peu fourvoyé en misant tout sur une forme de neutralité et d'indépendance de l'institution qu'est la Fed ?
Et je pense que là-dessus, il faut réinscrire cette indépendance et cette neutralité de la Fed dans le cadre plus général des relations entre les banques centrales d'un côté et le champ politique et les acteurs politiques. C'est seulement à partir des années 90 qu'on a un grand mouvement de réorganisation de ces relations avec ce qu'on pourrait appeler une mise en indépendance des banques centrales, donc qu'on leur octroie une indépendance vis-à-vis du champ politique pour qu'elles puissent prendre leurs décisions en matière monétaire sans être influencées par les exécutifs ou par les parlements. Aux États-Unis, cette indépendance, elle a des racines qui sont un petit peu différentes. Elles remontent d'une part à la période de l'après-guerre, avec un accord entre le Trésor états-unien et la Fed en 1951, qui acte que la Fed n'a pas pour objectif de contribuer à financer à taux bas le déficit public des États-Unis. Et à cette disposition légale de 1951 s'ajoute une modification de la pratique présidentielle sous Clinton, Bill Clinton au début des années 90, où Clinton et son secrétaire au Trésor, Robert Rubin, décident de ne plus commenter publiquement les décisions de la Fed afin de laisser la Fed, en toute indépendance, mener sa politique monétaire. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis la règle de Rubin, la Rubin Rule, et qui a été respectée par tous les présidents, entre Bill Clinton jusqu'à Donald Trump. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est l'arrivée de Donald Trump sur la scène politique aux États-Unis qui a amené à changer cette pratique qu'avait l'exécutif américain, et particulièrement la Maison-Blanche, à l'égard de la Fed. Mais si jamais on revient dans des périodes un peu plus anciennes, notamment dans les années 70, le président républicain Richard Nixon ne s'était pas privé de mettre la pression sur la Fed pour que la Fed baisse ses taux.
Est-ce que la Fed avait d'ailleurs fait, enfin, en tout cas via la personne de son président Arthur Burns, et puis cette baisse des taux avait enclenché toute une spirale inflationniste. Alors certes, le bilan économique, on va dire, de Nixon avait été vu comme positif à l'époque, mais on voyait bien toutes les conséquences plutôt négatives que ça peut avoir pour l'économie dans sa globalité. Donc de ce point de vue-là, on pourrait se dire que la Fed est garante finalement du bon fonctionnement global au-delà des agendas politiques et économiques du pouvoir en place. Cela dit, si on vous comprend bien, Antoine de Cabanne, années 90, il y a un peu ce principe de l'indépendance qui est inscrit dans le marbre, c'est une forme de tournant, mais en fait, on se rend aussi très rapidement compte que c'est un peu un leurre, puisque il y a la crise financière de 2008 qui a été l'objet d'une vaste remise en cause, et notamment d'un point de vue politique, de ce principe d'indépendance. Alors pourquoi cet épisode-là, il est particulièrement marquant, et de quoi on se rend compte finalement avec la façon dont la Fed gère, entre guillemets, la crise de 2008 ?
Alors ce qu'on observe, c'est que sur toute la séquence que je vous décrivais des années 90 jusqu'à 2008, la délégation de la politique monétaire à la Fed comme agence indépendante, c'est quelque chose qui n'est pas remis en cause dans l'arène politique américaine, ni par les démocrates, ni par les républicains. On a un espèce de consensus bipartisan sur les bienfaits de l'indépendance et le fait qu'on ait transmis ça à la réserve fédérale et qu'elle agisse toute seule de manière isolée du politique. Vous avez raison, le point de rupture, il se situe au moment de la crise financière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le rôle économique de la Banque centrale change avec la crise financière. Au moment de la crise financière, on a un certain nombre de faillites bancaires, voire même la menace d'un effondrement du secteur bancaire états-unien à la suite de la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. Et pour endiguer le cataclysme que représenterait un effondrement du secteur bancaire et financier états-unien, la Fed intervient massivement dans l'économie. Donc la Fed accorde des prêts d'urgence à un certain nombre de banques américaines à des taux très très bas, voire à des taux nuls. C'est également à ce moment-là qu'on a le lancement de ce qu'on appelle le quantitative easing, les programmes de rachat d'actifs, c'est-à-dire que la Fed va sur les marchés financiers et rachète des titres de dette publique, des titres de dette privée pour stimuler l'activité économique, pour stabiliser les marchés financiers.
Donc c'est un peu la preuve de quand elle veut, elle peut. Finalement, c'était un peu ça ce que a illustré la crise de 2008.
Exactement, et ça a généré pour la première fois depuis la fin des années 80 des critiques très vives de la part des acteurs politiques américains. Et c'est des critiques qui sont différenciées selon l'appartenance politique partisane. Donc du côté des démocrates, et particulièrement de l'aile gauche du Parti démocrate, on a vu apparaître la critique d'un deux poids deux mesures, en disant eh ben effectivement la Fed elle peut, mais elle peut et elle agit exclusivement pour sauver Wall Street, pour sauver le secteur bancaire et financier, que les démocrates dépeignent comme étant responsable de la crise, de la bulle des subprimes et de la crise bancaire. Et on a des premières revendications qui émergent du côté démocrate, d'une mise au service de la politique monétaire, une mise au service de politique sociale ou de...
Du bien commun, ce qui en général revient dans leur discours.
Exactement. Et à contrario, du côté républicain, ce qu'on observe, c'est que toutes ces interventions que la Fed fait pendant la crise, de mettre les taux directeurs à 0%, le quantitative easing et ses prêts très bas aux banques, c'est perçu comme étant une intervention de la puissance publique dans l'économie qui met à mal les mécanismes de marché et qui met en danger le fonctionnement du capitalisme états-unien. Donc vu comme, parfois même dépeint par certains acteurs très à droite du Parti républicain, comme une forme de socialisme. Et donc à partir de cette période-là, on voit qu'on a une critique à gauche chez les démocrates de la Fed qui émerge, une critique à droite chez les républicains qui émerge, et que ces critiques, elles s'amplifient, elles montent en puissance pendant toute la décennie qui va jusqu'à la crise Covid et même pendant les 15 ans qui nous amènent jusqu'au mandat de Trump aujourd'hui. Et que cette amplification, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle se fait, elle procède d'un cadre plus large de réorganisation du paysage politique américain. C'est-à-dire que la droitisation du Parti républicain, sous l'impulsion d'abord du Tea Party en 2009-2010, puis avec l'irruption de Donald Trump et l'élection de Trump en 2016, vont contribuer à radicaliser les prises de position, les préférences qu'ont les acteurs républicains vis-à-vis de la Fed. Et inversement, du côté démocrate, l'émergence d'une aile gauche dans le parti qui s'incarne avec Bernie Sanders dans la campagne pour les primaires en 2016, puis avec également la candidature de Sanders et de Warren dans les primaires en 2020. C'est des candidatures qui portent également un discours très critique sur la Fed, sur la nécessité de réorienter la politique monétaire pour contribuer à financer la transition énergétique et écologique, pour financer des programmes sociaux, pour améliorer les conditions matérielles d'existence des travailleurs.
Mais donc Antoine de Cabanne, avec la situation actuelle, avec ces attaques encore une fois de Donald Trump vis-à-vis d'un certain nombre de membres aussi de la Fed, aujourd'hui on peut dire que c'est très compliqué potentiellement pour les démocrates de garder cette position-là, de critiquer aussi l'indépendance de la Fed. Maintenant, on a beaucoup plus l'impression que l'indépendance de la Fed est garante justement des dérives politiques qui peuvent advenir. Est-ce qu'on peut se dire que finalement les démocrates, ils ont un discours pro-indépendance quelque part, mais un peu à contre-cœur pour des raisons beaucoup plus politiques que véritablement techniques ?
Mais je pense que vous avez raison. Ils sont effectivement un peu coincés dans la situation actuelle. Pourquoi ? Parce que les tentatives de Donald Trump de prendre le contrôle de la Fed et de prendre le contrôle de la politique monétaire, elles peuvent être lues de deux manières. On peut le lire comme l'aboutissement de ce processus que je vous décrivais, où le champ politique américain essaye, dans son ensemble, revient sur cette idée que c'est une bonne chose de déléguer la politique monétaire à des technocrates non élus. Mais on peut également le lire d'une autre manière, on peut le lire comme la tentative d'un pouvoir d'extrême droite de mettre au pas une agence indépendante ou une institution indépendante. Et à cet égard, ce qu'on observe depuis le début du second mandat de Donald Trump, c'est une attaque contre tous les contre-pouvoirs, c'est une attaque contre les médias. La mise au pas du pouvoir judiciaire, elle a déjà été largement menée dans le premier mandat avec les nominations dans les cours fédérales et à la Cour suprême. Et ça s'approfondit dans le deuxième mandat. Il y a également une forme de mise au pas du Congrès, c'est-à-dire que le fait que Trump ait pris des décisions en matière douanière qui violent les pouvoirs théoriques du Congrès et que le Congrès n'ait pas réagi, ça renforce encore cette situation de mise au pas des institutions indépendantes et de dérive autoritaire.
Et du coup,
les démocrates sont légèrement coincés parce que autant ils s'opposent à cette dérive autoritaire et à cette mise au pas des institutions indépendantes, et en même temps, quand on regarde dans les grandes figures démocrates, quelqu'un comme Bernie Sanders ou comme Elizabeth Warren, qui est la présidente de la commission parlementaire du Sénat en charge de la politique monétaire, c'est pas des gens qui sont partisans de cette idée de déléguer toute la politique monétaire
à
des experts, à des technocrates. Et donc, ils se retrouvent, malgré eux, à s'opposer aux décisions de Trump, mais tout en essayant de ne pas non plus totalement apporté leur soutien à ce principe de l'indépendance qu'ils ont pu critiquer par le passé, notamment pendant le premier mandat de Trump et la fin des mandats Obama.
Antoine de Cabanne, très rapidement, parce que cette émission est en train de se terminer, est-ce qu'on sait aujourd'hui qui défend l'indépendance de la Fed au-delà du contexte actuel? Est-ce qu'il existe un point de vue qui dit oui, c'est important de garantir cette indépendance-là, encore une fois, au-delà du contexte Trump, etc., mais vraiment pour des raisons idéologiques et des raisons profondément techniques, parce qu'il croit en cette indépendance? Est-ce qu'il y a un groupe social constitué qui défend ce point de vue?
Alors moi j'en vois deux, vous en avez un premier, c'est le secteur privé, les entreprises du secteur privé, et notamment le secteur bancaire et financier, à la fois états-unien et mondial. L'indépendance des banques centrales, c'est une des clés de voûte de l'organisation du système financier depuis les années 80. Et donc pour eux c'est quelque chose de très très important qui permet le fonctionnement des marchés tel qu'il est. Il y a un deuxième groupe qui me semble important de mentionner, c'est l'aile modérée du Parti républicain. Alors, elle existe plus aujourd'hui de manière aussi nombreuse que pendant le premier mandat de Trump, mais pendant le premier mandat de Trump, c'est l'aile modérée du Parti républicain qui a été la principale entrave aux tentatives de Trump de prendre le contrôle sur la Fed. On peut penser à la fois aux sénateurs républicains modérés qui ont bloqué des nominations où Trump nommait des personnes de ses gardes rapprochés à la tête de la Fed. On peut également penser au secrétaire au Trésor pendant son premier mandat, Steven Mnuchin, qui avait notamment en décembre 2018 publié des démentis dans la presse quand avait fuité la rumeur selon laquelle Trump à l'époque voulait déjà renvoyer Jerome Powell. Et à mon sens, dans les prochains mois, que ce soit sur concernant la situation de Lisa Cook ou la procédure de nomination d'un éventuel successeur à Jerome Powell dont le mandat expire en mai 2026, ce qui va être très important à observer, c'est dans quelle mesure il reste au sein du Parti républicain des élus modérés au Congrès qui sont capables de s'opposer à la tentative de Trump de mettre au pas la Fed comme il a essayé de mettre au pas toutes les institutions indépendantes aux États-Unis depuis le début de son second mandat.
Eh bien, nous continuerons effectivement à observer cette situation. Merci infiniment, Antoine de Cabanne. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences politiques et économie politique à l'Université catholique de Louvain. Un grand merci d'avoir participé à cette émission. Et tout de suite, place à la seconde partie avec John Maynard Keynes.
France Culture.
Cette guerre, nous la faisons pour défendre notre liberté, pour rendre leur liberté à trois nations opprimées. C'est cette liberté que vous défendez en souscrivant au bon d'armement.
Entendez-vous l'écho?
L'insuffisance de la main-d'œuvre, la médiocrité de l'outillage, le défaut de capitaux, la bataille pour la reprise économique est dès maintenant engagée.
Aliette Ovine.
Et pourquoi cette brusque progression, cet immense effort vers le progrès? C'est que l'électronique est devenue un élément déterminant de la défense des États.
Pour une communauté libre, ce n'est pas facile de s'organiser pour la guerre. Nous n'avons pas pour habitude d'écouter des experts ou des prophètes. Notre force réside dans notre capacité à improviser. Pourtant, un esprit ouvert aux idées neuves est également nécessaire. Personne ne peut dire quand viendra la fin. Dans les services de guerre, il est reconnu que la meilleure sécurité pour une conclusion rapide est un plan à longue haleine. Il est ridicule de procéder sur la base d'hypothèses différentes dans les services économiques. C'est pourtant ce que nous faisons actuellement. Sur le plan économique, nous manquons non pas de ressources matérielles, mais de lucidité et de courage. De la lucidité et du courage, c'est ce à quoi appelle John Maynard Keynes en 1940. La Grande-Bretagne est alors en guerre avec l'Allemagne et Keynes publie un ouvrage, une brochure relativement méconnue, How to Pay for the War, comment payer la guerre, sous-titré Un plan pour le chancelier de l'échiquier. Keynes va mettre sa vision d'ensemble de l'économie au service de son pays et tenter de concevoir un plan, comme il le disait, alors que le monde bascule. Déjà confronté quelques années plus tôt à la Première Guerre mondiale, Keynes tire des enseignements, des conflits et des déséquilibres que les guerres génèrent. C'est en praticien donc qu'il va tenter de ménager l'économie dite de guerre et équilibre macroéconomique. Pour lui, penser la guerre, c'est avant tout préparer la paix, une position qu'il avait d'ailleurs rendue célèbre en 1919. Penseur donc, praticien aussi, négociateur, expert, les multiples casquettes de Keynes lui ont permis d'élaborer une vision très complète de l'économie face à la guerre, une vision qui résonne encore aujourd'hui et c'est ce que nous allons voir avec vous, Raphaël Veuve. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université Côte d'Azur et vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ICI à Nice. Et c'est Florent Gangaï qui assure le duplex et qu'il en soit vivement remercié. Alors une première question, Raphaël Fèvre. Est-ce qu'on aura un jour fait le tour de John Maynard Keynes? Vous me disiez en préparant cette émission que vous aviez vous-même découvert des choses en vous penchant plus spécifiquement sur le Keynes face à la guerre. Nous, à Entendez-vous l'écho, ça ne fait la énième émission que nous lui consacrons et c'est bien normal. Mais est-ce que de ce point de vue, on peut dire qu'il suffit qu'on se penche sur un objet spécifique, en l'occurrence la guerre, pour découvrir un nouveau Keynes, ou est-ce qu'il y a tout de même une forme de cohérence dans sa pensée?
Alors, on peut commencer par dire que c'est un petit peu les deux, en fait, parce que vous avez une problématique spécifique qui est celle de la guerre, évidemment, mais qui va mettre en lumière la cohérence de la pensée de Keynes qu'il développe tout au long de sa carrière dans l'entre-deux-guerres, mais qui va venir être sanctionné avec cet ouvrage majeur en 1936 qui est la théorie générale. Mais c'est vrai que la question de la guerre, on va le voir ensemble, retourne un petit peu la problématique centrale de Keynes et du keynésianisme, puisque la question ne sera plus tant comment assurer le plein emploi, puisque le plein emploi sera assuré par la nécessité de la guerre, mais comment assurer un équilibre économique qui ne dégénère pas en termes d'inflation notamment et tout un tas de mécanismes délétères.
Alors je le disais, Keynes est avant tout un homme confronté à la guerre. On va revenir en détail sur ses rôles pendant les deux guerres mondiales, mais sachant qu'il est né en juin 1883 et mort en avril 1946, il n'y coupe pas historiquement, c'est une forme de fatalité. Alors il ne va pas au front puisqu'il est objecteur de conscience en février 1916. Est-ce qu'on peut tout de même dire, Raphaël Fèvre, qu'il s'agit davantage d'un praticien que d'un théoricien de la guerre?
Alors en particulier pour sa contribution autour de la Première Guerre mondiale, c'est clairement celle d'un praticien, même s'il a déjà des notions importantes autour de la question des relations financières entre les pays, notamment et les dettes interalliées. Mais c'est vrai que sa contribution sera celle d'un fonctionnaire, d'un commis d'État qui va rentrer auprès du chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire le trésor public à l'époque. Il n'a pas une théorie aboutie encore à ce moment-là pour penser la question de la gestion de la guerre. Ça va venir avec le temps, et c'est vrai que là, il y a un saut important entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Praticien durant la Première, il sera beaucoup plus théoricien pendant la Seconde, même s'il va s'appliquer à mettre cette théorie au service de questions extrêmement concrètes.
Et on peut voir qu'il y a déjà une forme un peu de paradoxe, Raphaël Fèvre. D'un côté, il y a cette idée du Keynes très connu, on va revenir dessus, de 1919, qui quitte les négociations du traité de Versailles parce que lui prône, on va dire, des mesures économiques qui bénéficient à la paix. De l'autre côté, je le citais en introduction, il y a comment financer la guerre. Du coup, on a un peu l'impression d'un Keynes qui, à la fois, refuse l'idée même de la guerre, qui serait un pacifiste dans l'âme, et de l'autre, un économiste qui veut quand même que son pays gagne à la fin. Comment il se positionne vis-à-vis de la guerre? Quelle est sa ligne de conduite, finalement?
Oui, je pense qu'il ne voit pas d'antinomie entre les deux positions, c'est-à-dire tant que il sent que on est dans une situation où il peut tout faire pour assurer la paix, il va se donner corps et âme à développer des principes qui seront au service d'une paix durable entre les États. Et puis dès que la chose est en quelque sorte devant lui, on ne peut plus l'éviter. Alors au contraire, à ce moment-là, il met toute son intelligence et toute son approche au service des moyens les plus aboutis pour financer l'effort de guerre. Et donc, de son point de vue, je ne pense qu'il n'y a pas véritablement de contradiction de ce point de vue-là.
Alors, on l'a dit, si Keynes s'intéresse à la guerre et qu'il mobilise ses compétences d'économiste, vous l'avez mentionné, Raphaël Fèvre, c'est aussi parce qu'il fait partie de l'administration britannique, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Quel rôle il va occuper alors précisément à l'époque? De quel statut, de quelle reconnaissance il bénéficie à ce moment de sa carrière? Et puis, qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre justement pour participer quelque part à l'effort de guerre? Quelle est sa vision à ce moment-là?
Alors, lorsqu'il rejoint le Trésor en 1915, c'est vrai que ce n'est pas sa première expérience en tant que fonctionnaire public. Il sera entré par la petite porte déjà en 1906-1908. Il travaillait au bureau des affaires indiennes, puisque l'Inde est encore sous domination anglaise. Donc, il va déjà avoir une première expérience en tant que fonctionnaire intéressé aux questions aux questions financières internationales. Il va très vite se départir de ce poste et démissionner parce qu'il dira qu'il s'ennuiera profondément dans ce poste administratif. Il va devenir professeur à Cambridge dans la foulée. Et c'est bien plus tard, au moment de 1915, qu'il est appelé au Trésor pour ses connaissances et pour sa compréhension des finances internationales. Alors, à ce poste-là, au sein du Trésor, il est en charge en particulier de négocier la question des prêts et des emprunts avec les autres pays alliés, avec du Royaume-Uni envers les États-Unis, en particulier dans une moindre mesure avec la France et la Russie. Et donc tout son effort à ce moment-là, c'est de il peut être résumé en fait à trois grandes démarches: la gestion des déficits, comprendre les mécanismes qu'il y a autour de la question de l'épargne nationale et de comment s'assurer qu'on a suffisamment de crédits étrangers en plus de cette épargne disponible qu'on peut ponctionner sur la population du Royaume-Uni. Deuxièmement, la question des relations financières interalliées. Donc là, c'est toute il faudrait entrer dans toute la complexité des négociations internes avec les financiers du côté américain, donc négociation des prêts, négociation des montants, négociation des remboursements en nature après la guerre ou alors financiers. Donc là, il y a toute la partie négociation qui est extrêmement centrale. Et puis troisièmement, ce qu'on peut tirer aussi chez Keynes à cette époque, c'est une compréhension très fine chez lui de l'impact qu'aura la guerre, l'impact décisif et durable qu'aura la guerre sur l'économie nationale du Royaume-Uni, qu'il voit baisser les réserves d'or, il voit baisser les réserves de devises de la Banque d'Angleterre. Et donc, il sent bien très très vite que le Royaume-Uni est en train de perdre son statut de puissance financière mondiale, eh bien, au bénéfice des États-Unis.
Donc, on le comprend, de 1914 à 1918, en tant que chef de la division du Trésor chargé des financements extérieurs, Keynes est déjà dans une logique de négociation. C'est presque un diplomate en soi. C'est oui. Pas négligeable pour comprendre ce qui va se passer par la suite, puisque arrive le fameux moment clé, celui de la négociation du traité de Versailles. Je parle de moment clé, Raphaël Fèvre, parce que on pourrait dire que c'est là aussi que se cristallise une partie de la légende Keynes. Alors, quel rôle va jouer Keynes dans ces négociations? Là, je le rappelle quand même, de 36 ans, qu'est-ce qui va se jouer pour lui lors de ces négociations-là?
Il va représenter le ministre des Finances de l'époque et donc prendre à sa charge la discussion, la position du Royaume-Uni en termes financiers. Alors, ce n'est pas la position politique, évidemment, du Royaume-Uni, mais il traite des questions financières et il va mettre toute son intelligence au service d'essayer d'abaisser le montant des réparations qui va finalement être fixé par le fameux traité de Versailles, parce qu'il voit bien que la discussion s'engage dans une direction qui lui semble tout à fait erronée. Il voit bien que on est en face d'un règlement de compte politique et la question de la restructuration, de la reconstruction de l'ordre international économique et du redémarrage de l'économie européenne est totalement passée au second plan, alors que pour lui, évidemment, c'est la question sociale, c'est la question centrale, excusez-moi. Et pour lui, il le dit assez clairement, hein, la question des frontières et de la souveraineté politique est tout à fait secondaire. La question, c'est comment on sort de la guerre à profit pour tout le monde et comment on fait redémarrer la machine européenne, parce que, évidemment, ce qu'il a en tête, c'est
de relancer.
D'indiquer la voie d'une économie prospère pour des décennies en Europe et non pas de construire les prochaines tensions nationalistes.
Bon, ça, c'est la vision de Keynes. Très concrètement et très, très simplement, tout le monde ne la partage pas, pour le dire grossièrement. C'est le fameux l'Allemagne paiera de Clémenceau. Keynes lit le projet de traité le 7 mai 1919. Il démissionne le 19 mai pour bien prouver et bien souligner son désaccord profond avec ce qui est en train d'être négocié. Quelle réputation ça lui confère, cette démission, ce claquage de porte, Raphaël Fèvre?
Oui, alors Keynes claque la porte, hein, ce qui est assez cocasse dans cette situation extrêmement, extrêmement compliquée. Alors, tout de suite, ça, évidemment, ça ne donne pas une très bonne réputation, mais ce qui va vraiment avoir un effet à plus long terme, c'est la publication de son texte plus tard, Les conséquences économiques de la paix. Je dis plus tard, mais en fait, ça sera vraiment dans la foulée. On voit que ça a été rédigé vraiment à chaud dans la foulée de ces négociations. Et eh bien, la légende de Keynes commence à se construire à ce moment-là. Alors, avec une réputation extrêmement péjorative, vous l'imaginez bien, en France, hein, on parle de... parle de trahison, on parle de francophobie, de germanophilie qui à l'époque est évidemment une insulte. Mais les travaux de Keynes sont bien mieux reçus, évidemment de l'autre côté du Rhin, où là il trouve des soutiens et on reconnaît l'importance de Keynes en Allemagne, en Autriche, à ce moment-là.
Cela dit, Raphaël Fèvre, je ne sais pas si on peut donner tout à fait tort à cette réception française pour bien comprendre ce dont il s'agit, puis le ton aussi employé dans les conséquences économiques de la paix, qui est un ouvrage qui fait un peu plus de 250 pages et qui est effectivement publié en décembre 1919, donc effectivement dans la foulée de cette fameuse démission. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Clémenceau pouvait bien, en quelques mots, abandonner les revendications d'un Klotz ou d'un Loucheur, ou fermer les yeux d'un air fatigué lorsque les intérêts français n'étaient plus l'objet de la discussion. Il savait quels étaient les points capitaux, et là-dessus, il n'en rabattait pas beaucoup. Pour autant que les principales lignes économiques du traité répondent à une idée raisonnée, cette idée est celle de la France et de Clémenceau. Mon dernier souvenir, et le plus vivant, est une scène de cet ordre. Le président et le premier ministre, au centre d'une foule houleuse et d'une babel de sons, un amas de compromis et de contre-compromis véhéments et improvisés, un vacarme et une agitation furieuse sans signification aucune et portant sur une question en tout cas irréelle, les grands résultats de la réunion du matin oubliés et négligés, et Clémenceau, silencieux et loin de tout cela, car rien n'était en jeu de ce qui touchait à la sécurité de la France. Il trônait, ganté de gris sur sa chaise de brocart, l'âme sèche et vide d'espérance, très vieux et très fatigué, mais il contemplait le spectacle d'un air cynique et presque dédaigneux. Quand, enfin, le silence une fois rétabli, tout le monde eut regagné sa place, on découvrit qu'il avait disparu.
Un extrait des conséquences économiques de la paix lu par Tina Young. Bon là, Raphaël Fèvre, on peut comprendre que le ton employé par Keynes suscite quelques critiques. On voit qu'il ne se contente pas de dire ce qui serait bon pour l'économie britannique. Il n'hésite pas quand même à employer un ton relativement ironique. Ça participe aussi de sa réputation.
Oui, ça c'est vraiment un texte d'une ironie mordante. J'invite les auditeurs à jeter un œil aux conséquences économiques de la paix, parce que c'est une lecture extrêmement savoureuse, alors qu'elle est entrecoupée de moments plus pénibles, oui, de calculs très précis, de statistiques, mais il y a ces petits croquis, ces petits portraits des personnages centraux des négociations qui ont entouré Versailles, qui est extrêmement savoureuse et extrêmement cruelle, c'est sûr, sous la plume de Keynes. On retrouvera ça dans ses nombreux écrits, alors à plus ou moins... avec plus ou moins d'importance, mais c'est vrai que l'ironie ne va jamais quitter son œuvre. Et les conséquences économiques de la paix sont c'est assez étonnant et c'est assez symptomatique quand même comme texte, parce que ça rassemble chez Keynes des analyses économiques extrêmement profondes, des descriptions statistiques, du commentaire politique, du portrait psychologique, et on retrouve un peu tous les ingrédients de la recette keynésienne, ou plutôt de Keynes typique, où il va mêler ensemble des faisceaux d'indices qui viennent de données qui semblent très disparates a priori.
Et puis le caractère psychologique finalement qui est assez présent alors dans ces petits portraits certes, mais c'est peut-être moins anodin qu'il n'y paraît, parce que on parlait finalement de la position de Keynes vis-à-vis du traité de Versailles et de on va dire ce qui a été infligé à l'Allemagne via ce traité-là. Toute la théorie de Keynes, enfin toute la prise de position de Keynes est basée spécifiquement sur l'idée d'un ressentiment qu'il ne faudrait pas trop susciter, on va dire. Ça aussi, c'est quelque chose de très psychologique, le ressentiment. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau que de mêler finalement psychologie et économie à cette époque-là? Est-ce que Keynes innove quelque part en prenant en compte les sentiments de ce qui était auparavant l'ennemi?
Oui, vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point. C'est vrai que l'aspect psychologique semble un peu anecdotique, alors qu'en fait, il n'est pas du tout anecdotique. C'est une des grandes contributions de Keynes, je pense, à ce moment-là, d'essayer de tenir ensemble deux niveaux qui sont rarement mis ensemble par les économistes. D'une part, le niveau macroéconomique global de la gestion financière, de la gouvernance économique par la puissance publique. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre côté, c'est pour lui extrêmement central, ce sont les comportements comportements microéconomiques, hein, les comportements des individus sous l'effet de telle ou telle incitation, de telle ou telle politique. Et la psychologie à la fois des individus et la psychologie des foules est tout à fait décisive pour lui, hein. Il faut animer et non pas décourager les esprits animaux, cette tendance profonde que les individus ont d'agir plutôt que de ne pas agir. Donc il y a eu pas mal de travaux pour montrer combien Keynes avait été influencé, notamment par quelqu'un comme Freud à l'époque, mais ça va occuper une place tout à fait centrale. Alors la psychologie n'arrive pas avec Keynes, hein, on trouve ça chez d'autres économistes dès la fin du 19e siècle, mais c'est plutôt autour des questions de calcul d'utilité. Là, c'est vraiment une psychologie nouvelle mouture d'influence freudienne qu'on retrouve à cette époque chez Keynes et qui lui est particulière, je pense.
Vous avez parlé des esprits animaux et encore une fois, sur cette dimension psychologique, c'est intéressant de se cramponner aussi à ce fil rouge qui est assez présent chez Keynes, parce qu'on pourrait se dire, voilà, Keynes, on l'a dit, c'est un praticien de la guerre, quand il doit mobiliser sa pensée au service de son gouvernement, il le fait avec la ligne qui est la sienne, mais dans l'entre-deux-guerres aussi, on pourrait se dire que l'idée de guerre reste présente. Il y a cette idée chez Keynes que de la même façon qu'il a voulu, avec sa démission vis-à-vis du traité de Versailles, des négociations, qu'il a voulu marquer son désaccord avec une politique qui ne menait pas à la paix, il va continuer à se poser la question de finalement quelle politique, et a fortiori quelle politique économique, permet d'éviter la guerre. Et c'est là où je réintroduis la notion d'esprit animaux. Keynes pensait vraiment à une économie dans sa globalité où les individus seraient mus par autre chose qu'un désir de guerre. Comment il remplace finalement, qu'est-ce qui fait selon lui que les individus se meuvent ou prennent des décisions indépendamment de ce désir de guerre-là, et qu'est-ce qui le remplace selon Keynes?
Alors là, il y a toute une pensée extrêmement complexe autour du rôle de la monnaie dans l'économie. Il nous dira, je n'ai plus la citation exacte, mais qu'il faut mieux que les individus fassent violence à leur portefeuille plutôt qu'ils fassent violence à leur prochain. Donc il y a cette idée que la dépense libère des pulsions et que on peut s'appuyer sur cette pulsion de la dépense pour qu'elle serve l'économie, pour qu'elle serve l'économie au niveau global des redémarrages économiques, vu la situation extrêmement complexe de l'entre-deux-guerres. Plutôt qu'elle ne serve à une pulsion soit d'accumulation qui pourrait mener à une guerre in fine parce qu'on dépense pas assez aujourd'hui donc on dépensera demain d'une autre façon ou des tensions interindividuelles. Et ça, c'est vrai qu'on va retrouver ça dans les travaux de Keynes sur la monnaie, puis en particulier dans la théorie générale où là va y avoir toute une réflexion plus globale sur comment avoir une économie de paix durable et pérenne sur la longue période. C'est vrai que Keynes nous dit on n'a pas encore trouver comment résoudre la question des crises autrement que de recourir historiquement à deux grandes solutions possibles. La première étant la ruée vers l'or. Il faut être dans une situation historique particulière pour cela. Il pense à la Californie de la grande époque notamment. Mais l'autre solution qui a toujours été favorisée, c'est celle des guerres. Deux solutions de redémarrage économique, la ruée vers l'or ou les guerres. Et Keynes vient et nous dit, il y a une solution consciente possible. Alors là, on a les recettes keynésiennes qu'on connaît un petit peu mieux.
C'est-à-dire, c'est ce qui est resté dans l'histoire aussi.
Exactement, de relance de la dépense, de la demande globale, etc. À la fois des dépenses étatiques et aussi des dépenses individuelles, que ce soit des consommateurs ou d'investissement des entrepreneurs. Mais tout ça, on peut le repenser dans le cadre plus global de la philosophie politique de Keynes, qui est de dire, c'est pour éviter les guerres. Quel type de solution pour un temps de paix on peut mettre en avant pour faire redémarrer l'économie et ne pas être prisonnier de cette alternance un peu morbide?
Et puis, encore une fois, l'histoire rattrape John Maynard Keynes. Le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Et quelques mois plus tôt, en mai 1939, Keynes avait prononcé ces quelques mots à la BBC. Je vous propose d'écouter sa voix.
Grand experiment has begun. If it works, if expenditure on armaments really does cure unemployment, I predict that we shall never go back all the way to the old state of affairs. If we can cure unemployment for the wasted purposes of armaments, we can cure it for the productive purposes of peace. Good may come out of evil. We may learn a trick or two which will come in useful when the day of peace comes. As in the fullness of time, it must.
La grande expérience a commencé. Si cela fonctionne, si les dépenses d'armement parviennent à vaincre vraiment le chômage, je prédis que nous ne reviendrons plus jamais à l'ancien état des choses. Si nous pouvons vaincre le chômage par des dépenses inutiles en armement, nous pouvons le vaincre par des dépenses productives pour la paix. Le bien peut sortir du mal. Nous pouvons apprendre une chose ou deux qui nous seront utiles quand la paix reviendra. Comme à la fin des fins, cela ne manquera pas d'arriver. Raphaël Lefèvre, dans quelle mesure, finalement, Keynes voit la guerre comme une expérimentation de ses théories ?
Ah, je ne sais pas, c'est une expérimentation vraiment de cette théorie, ou plutôt...
Mise en application
il fait radicale. Contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est-à-dire que, il a ce cadre de la théorie générale, et comment, dans ce cadre, on arrive à penser la question de la guerre, qui inverse un peu à nouveau sa problématique, hein, c'est ce qu'on avait dit au début, c'est-à-dire que Keynes sait déjà que le plein emploi va être assuré, les personnes qui vont partir à la guerre vont être remplacées par d'autres, par le travail des femmes notamment, et donc on va avoir une production qui travaille à plein avec une population parfaitement employée, donc ce n'est plus cette problématique-là qui va être centrale. Mais donc ça démontre quand même que avec certains mécanismes, certaines incitations là qui sont catastrophiques, mais qui sont là, on arrive à régler assez facilement, assez directement la question du plein emploi. Donc c'est déjà pour lui une indication, une leçon extrêmement prégnante. Quand il y a une volonté politique, on peut gérer la question du plein emploi. Alors là, c'est catastrophique, on a attendu d'une guerre pour le faire, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il y aurait d'autres déterminants, d'autres incitations, comme on l'a dit avant, qui pourraient aussi régler ce questionnement-là.
Le 27 février 1940, Keynes publie une brochure qui est relativement méconnue dans toutes ses productions, on va dire, qui s'intitule, je le disais, « Comment financer la guerre ». Il y a beaucoup d'obsessions de Keynes qui reviennent effectivement dans ces écrits-là, notamment la question de l'inflation, mais entre autres. Très concrètement, dans cette production, dans cette brochure-là, est-ce qu'on peut attendre finalement, si quelqu'un l'ouvre pour la première fois par exemple, est-ce qu'on peut attendre des recettes très concrètes de la part de Keynes pour véritablement financer la guerre ? Est-ce que avant de lancer le plan Rearm Europe par exemple, on aurait pu se dire tiens, lisons Keynes, il va nous donner des bons conseils, Raphaël Lefèvre ?
Alors je ne sais pas dans quelle mesure on aurait pu ouvrir ce texte pour aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on trouve un propos qui est extrêmement concret, c'est-à-dire Keynes, vous avez lu un passage au début
c'est vraiment le tout début de l'ouvrage.
Exactement, oui. Et il y a des propos comme d'habitude avec lui de philosophie plus générale sur ce qui va être son plan, mais quand on rentre après un petit peu dans les pages du texte, on arrive avec des propositions extrêmement concrètes. Et c'est vrai que Keynes verra ce « Comment payer pour la guerre », ce texte, comme une application des principes qui ont été développés dans la théorie générale. L'idée pour lui, essentiellement, c'est de savoir comment transférer des ressources au sein d'une économie de guerre, comment transférer des ressources qui auparavant servaient à la consommation privée des individus vers la consommation publique de l'État, consommation publique de l'État qui va prendre évidemment la forme d'armes, d'armement, de chars, etc. Donc c'est la problématique centrale qui va tâcher de nous expliquer et de trouver des solutions pour pouvoir la mettre en application.
Alors justement, quelles sont-elles ces solutions ?
Alors le plan tourne tout entier au travers d'une proposition qu'il appelle radicale, c'est celle du salaire ou du pouvoir d'achat différé. L'idée de Keynes, c'est qu'on va pouvoir lisser la consommation privée des individus à travers le temps, retarder, différer cette consommation pour qu'elle n'ait lieu qu'après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi il cherche à faire ça ? Normalement, Keynes, il veut que tout le monde consomme, ça relance la machine économique. Là, comme on est au plein emploi à la fois des individus et des ressources productives, au contraire, le risque, c'est plutôt qu'il y ait une pression de la demande sur l'offre et donc qu'on ait une augmentation des prix à court terme. Cette augmentation des prix, cette inflation, elle pourrait pousser les entreprises, sous la pression des travailleurs, sous la pression des syndicats, à augmenter les salaires. Les salaires augmentant créent à nouveau du revenu, à nouveau de la demande et tirent à nouveau les prix vers le haut. Donc Keynes voit l'apparition possible d'une spirale inflationniste qui avait d'ailleurs eu lieu plus ou moins sous ces termes.
Oui.
Exactement, pendant la Première Guerre mondiale.
Et qui avait largement découragé la population, ce que Keynes veut éviter.
Exactement.
Raphaël Lefèvre, on se doute que cette solution-là ne fait pas plaisir à tout le monde, même si elle semble assez fluide sur le plan théorique. Et c'est ce que vous me disiez aussi en préparant cette émission, c'est que finalement, la réception va être assez unanime. C'est plutôt bien acceptée, mais tout cela ne sera pas nécessaire nécessairement mis en place dans le sens où, bon, forcément, à un moment, il faut rembourser les choses. Et donc, c'est par la taxation du capital que ça se passe. Raphaël Lefebvre, très brièvement, pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de Keynes aujourd'hui? Comment sa pensée, et notamment sa pensée de la guerre, a infusé jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé fondamentalement?
L'un des éléments principaux peut-être à souligner, c'est la façon dont Keynes, on n'a pas eu le temps vraiment d'y venir, mais si on lit ce texte « Comment payer pour la guerre », on voit que Keynes s'appuie beaucoup sur des catégories qu'on appelle aujourd'hui de la comptabilité nationale. Et en fait, Keynes va mettre en avant tout un raisonnement au niveau macroéconomique sur la question des ressources totales à employer versus les emplois possibles de cette richesse. Et donc, il y a une catégorisation qui se fait au niveau global à travers des calculs macroéconomiques très précis qui vont être peut-être l'élément qui va le plus informer le Trésor à ce moment-là lorsqu'il va construire des budgets économiques. C'est quelque chose qui aujourd'hui nous est tout à fait connu et habituel, ces grandes catégorisations avec des agrégats économiques. Mais c'est vrai que Keynes va être peut-être celui qui, en Angleterre, avec Richard Stone et d'autres, va le plus pousser pour avoir ces nomenclatures de façon précise, avec des statistiques extrêmement développées, pour piloter, guider le fonctionnement économique et la politique économique du Trésor.
Et voilà tout ce que l'on doit à Keynes. Un grand merci à vous, Raphaël Lefebvre. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université Côte d'Azur. Si vous souhaitez lire « Comment financer la guerre, un plan pour le chancelier de l'échiquier », une édition critique apparue en 2020 chez Classique Garnier, menée par Marc Laudet avec la collaboration d'André Tirant.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Je parlais des débats autour des solutions à trouver face à la situation budgétairement tendue en France. Le fil de l'écho aujourd'hui se penche aussi sur le problème et j'espère que Bercy nous écoute car Arnaud Aurin a une solution.
Vous le savez peut-être, le gouvernement français cherche par tous les moyens à faire baisser le déficit public. Mais du fait de la remontée des taux d'intérêt et du poids des déficits passés, la charge de la dette est en forte hausse. Elle deviendra probablement le premier poste de dépense de l'État à la fin de la décennie, devant l'éducation et la défense nationale. A contrario, la valeur du patrimoine foncier et immobilier des Français ne cesse de croître depuis 30 ans. Est-ce que ce n'est pas là que réside la solution à beaucoup de problèmes économiques du pays? Quelques constats d'abord. La richesse foncière et immobilière des Français correspond aujourd'hui à environ 6 années de revenu national, soit 6 fois la totalité des revenus touchés par les ménages et les entreprises du pays en un an. La terre seule, sans compter le bâti qui se trouve dessus, représente entre 6 et 8 000 milliards d'euros. Or, la forte hausse des décès constatée depuis 10 ans va s'accentuer avec l'âge avancé de la génération du baby-boom. Et les droits de mutation, les fameux frais de notaire, qui ont déjà doublé depuis 15 ans, vont encore croître dans les années qui viennent. Ce n'est un secret pour personne, nous avançons tout droit vers une nouvelle société d'héritiers, proche de celle du 19e siècle. Car les transferts importants de patrimoine vont se concentrer sur un pourcentage restreint de la population. Du coup, réduire la dette et les inégalités ne pourrait-il pas passer par la terre et l'immobilier? En 2017, un rapport de France Stratégie, organisme rattaché au Premier ministre, avait fait grand bruit. Il ne proposait rien moins, en cas de nouvelle crise de la dette, que l'État français se déclare copropriétaire de toutes les terres bâties de l'Hexagone. Pour le droit d'occuper ces terres, les particuliers et les entreprises auraient dû verser, sous forme de loyer ou à chaque vente, un pourcentage de leur valeur. La plupart des experts économiques avaient à l'époque crié au retour des bolcheviks, le couteau entre les dents. Mais l'idée est-elle si folle d'un point de vue économique? Bien entendu, il y a des précédents radicaux. Si on laisse de côté les régimes communistes, déjà, en 1720, l'Écossais John Law avait caressé l'espoir de s'emparer des biens de l'Église pour rembourser les dettes de Louis XIV. Et la Révolution française procédera à leur nationalisation en 1789 dans le même but. Mais les premiers économistes libéraux, dans la France du XVIIIe siècle, les physiocrates, ceux qui voulaient instaurer un gouvernement de la nature, de la physis, ont proposé l'idée d'un souverain qui serait copropriétaire de toutes les terres du royaume. Ils voulaient un impôt unique sur les propriétaires fonciers, en prenant soin d'épargner les locataires de la terre, les fermiers, dont les investissements devaient enrichir le pays. Un siècle plus tard, Léon Valras, le père de l'équilibre général, envisageait lui un rachat de toutes les terres par l'État. Ce même État aurait alors pu financer ses dépenses par le revenu des fermages et des loyers du sol. Dans les années 1970, des économistes américains ont cherché à montrer l'optimalité d'un financement d'infrastructures par une taxe sur la rente foncière. Plus près de nous, en 2022, les économistes Alain Tranois et Étienne Vasmer, qui ne sont pas de dangereux sans-culottes, ont proposé de financer le modèle social français et la charge de la dette par une taxe de 2% sur la terre. Cette taxe remplacerait toutes celles existantes sur l'immobilier. Elle épargnerait le bâti pour, comme chez les physiocrates, ne pas décourager les investissements. Alors que le sol qui nourrit et qui loge redevient un enjeu majeur de notre temps, la question de la propriété de la terre, qui interroge même chez les libéraux, mériterait plus que jamais un très large débat démocratique.
Merci beaucoup Arnaud et à la semaine prochaine.